Ah oui, c'est là, d'accord. Alors, je vous amène donc les salutations de l'église laotienne d'où je viens, qui se trouve à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est une église de 40 personnes, hein, un peu comme vous, dans l'église francophone. Il semble que vous êtes une quarantaine en temps normal. Donc, voilà. Je suis marié avec Mentai, donc nous avons 3 enfants. Malheureusement, comme nous sommes en transition maintenant, donc elle travaille ce matin et donc elle n'a pas pu venir, mais une prochaine fois, je suis persuadé que nous reviendrons en famille. Et donc nous avons 3 enfants, le garçon a 17 ans et les 2 filles ont 15 et 9 ans. Donc voilà, j'ai étudié à l'Institut biblique Nogent-sur-Marne de 2005 à 2008. Donc j'ai côtoyé le pasteur Olivier Lowe et Belkacem. Je suis donc actuellement pasteur à mi-temps à l'église donc évangélique Laumont, c'est l'église donc de Sevran depuis 2010. L'autre mi-temps j'étais donc avec France Mission dans un magasin de commerce équitable, ça existe toujours ce magasin. Dans Paris 17, Equitéo, et je fais de l'évangélisation là-bas, mais que j'ai arrêté il y a 2 ans de cela. Et donc, ce mi-temps qui me manque, eh bien, je travaille en tant que conjoint collaborateur avec mon épouse. Donc nous vendons des plats asiatiques dans les marchés. Et cette idée nous est venue pour bien sûr entrer en contact avec les gens de Rony pour pouvoir évangéliser éventuellement, et c'est ce que nous faisons. Et nous louons Dieu pour cela. Voilà la vidéo. Prochaine vidéo s'il vous plaît. Alors, je suis désolé, je débute en PowerPoint. Donc, vous verrez qu'il y a, il y aura quelques petites images qui... quelle est ta responsabilité pour la mission? Alors, je me souviens, il y a une quinzaine d'années de cela, un pasteur entrait dans la salle et... je ne sais plus c'était sur quel thème, mais je me souviens de cette citation qu'il nous a donnée d'un abbé, alors qui dit ceci: pendant que le monde s'écroule autour de nous, les chrétiens prennent le thé. Pendant que le monde s'écroule autour de nous, les chrétiens prennent le thé. Alors, je n'ai pas retrouvé de quel abbé il s'agissait, mais je me souviens très bien donc de cette citation et elle me plaît beaucoup parce que ça tombe très bien sur le thème de la mission aujourd'hui. Alors, je vous propose de lire 2 passages. D'abord, le passage de Galates 6, 4, 5. Une image en arrière, voilà, merci. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la retrouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, chacun sera responsable de ses actes. Donc c'est la version parole de vie. Et je vais lire l'autre passage aussi, s'il te plaît. Voilà, ce passage est très connu, que vous connaissez très bien. Alors, je me suis posé la question... qu'est-ce qu'un pasteur a donné de plus pour une église missionnaire? Mais voilà, le Seigneur m'a mis ça dans le cœur et j'avais envie de vous partager quelques points qui pourront peut-être vous éclairer ou vous encourager. Alors Matthieu 28, 16 à 20, dans la version second révisée, Colomb 1978, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ces temps de louanges que nous avons pu passer et avec ces paroles de ta parole puissante que nous avons pu entendre, Seigneur. Nous te louons et te disons merci pour ce temps que tu nous accordes pour écouter ta parole. Et merci de bénir ton Église, de bénir mes frères et sœurs, de bénir la parole, Seigneur, que je vais lire, que je vais essayer d'apporter avec ton esprit, avec l'aide de ton esprit, Seigneur, qu'elle puisse nous toucher, nous encourager, nous aider à aller de l'avant et à te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons. Amen. Alors, quelle est ta responsabilité pour la mission? Quelle est ta responsabilité pour la mission? Alors souvent, j'essaie de poser cette question parce que dans la plupart des églises que je connaisse, la mission ou lorsqu'il faut sortir faire de l'évangélisation à l'extérieur, eh bien, il n'y a pas grand monde. Les gens ne se sentent pas concernés. Il y a quelques jeunes qui s'intéressent, qui viennent en général, un groupe de jeunes est assez motivé et toujours répond présent. Mais les parents, les plus jeunes, eh bien, on ne se sent pas tout à fait concerné. Alors j'essaye de réveiller un peu nos esprits, de nous recadrer peut-être un peu en apportant quelques éclaircissements ou quelques paroles de la Bible. Alors, on continue, s'il te plaît. Alors, il faut maintenant, nous parlons de notre responsabilité par rapport à la mission, pour la mission. Donc, il nous faut donner un cadre de responsabilité, un champ d'application à notre responsabilité dans la mission, pour la mission. Et il s'agit de cette mission que Jésus a confiée à ses apôtres. Donc, dans le passage que nous avons lu, eh bien, si vous avez fait attention au début, il est dit les 11 disciples allaient vers la montagne que Jésus leur a indiquée. Donc, il s'agit bien de paroles pour la mission qui sont destinées à ses apôtres en premier, qui sert donc de modèle pour nous aujourd'hui. Alors, notre responsabilité va s'appliquer dans cette mission-là, en fait, qui a été d'abord donnée aux apôtres, bien sûr, mais les débats récents montrent que ces paroles-là concernent aussi les chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens de toute époque. Donc, dans l'église missionnaire de Saint-Maur, ici, bien sûr, votre responsabilité qui concerne la mission vous concerne et vous avez le devoir de travailler, de mettre en œuvre les actions pour rendre la mission à travers cette église vivante, avec peut-être aussi d'autres églises locales qui sont à Saint-Maur. Et puis, probablement, lorsque vous avez certaines difficultés à trouver des directions, vous pouvez aussi consulter votre union d'église pour vous conseiller à vous responsabiliser dans la mission que le Seigneur vous a confiée ici. Et puis, bien sûr, toutes ces données-là entrent dans la mission de Dieu. Avant de parler de la mission de l'Église ou de la mission des hommes, Dieu avant tout est il parle de sa mission, il s'agit de sa mission. Alors, la vidéo suivante, s'il te plaît. Donc, notre champ d'application de notre responsabilité, c'est dans tout ça, qui représente la mission de Dieu. Ce n'est pas une mission, je ne sais quoi, mais c'est bien une mission, la mission de Dieu. C'est dans la mission de Dieu que nous sommes appelés à travailler. Alors, avant tout, quelques préliminaires sur nos responsabilités. Il s'agira donc d'avoir une vision claire sur la mission. Donc, Matthieu 28, que nous avons lu, Jésus donne un ordre à ses apôtres, à ses disciples, d'aller dans le monde entier et de faire des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que Jésus leur a prescrit. Acte 1, 8, donc, nous ne l'avons pas projeté, mais il s'agit de ce texte de base pour la mission aussi, qui consiste à propager l'évangile à Jérusalem, en Samarie, et puis dans le monde entier. Cette vision doit... L'apôtre Paul écrit aussi aux Romains, aux chrétiens de Rome, chapitre 10, verset 14, verset 13 à 17, que comment les gens peuvent entendre s'il n'y a personne pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Et puis, il y a le texte de Matthieu 9, 37, 38 qui nous aide aussi à prier le maître de la moisson pour que le Seigneur envoie aussi des missionnaires formés, des gens compétents pour moissonner la moisson qui est déjà bien abondante. Et puis, il y a ce texte très puissant de Matthieu 16, 18, lorsque Jésus dit à l'apôtre Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Un texte très puissant parce que pour nous aider dans la mission, parce qu'en fait, la mission a pour but de propager l'église, de propager le royaume de Dieu. Et dans ce texte, il dit clairement, Jésus dit clairement à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui va bâtir son église avec ses frères, ses co-héritiers que nous sommes. Le texte 1 Corinthiens 3, 17 mentionne que quelle que soit l'action que nous entreprenons, eh bien, là, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens en disant « Vous dites que vous êtes pour Apollos, que vous êtes pour Paul, que vous êtes pour Jésus, mais en fait, c'est Dieu qui fait croître. Donc, qui fait croître son Église, qui fait croître la mission, etc. » Donc, ce sont des textes de base qui sont importants pour nous encourager, pour nous aider à nous recadrer, à nous placer dans les mains de Dieu. Et il nous faut donc rechercher des moyens en tant que responsable, chrétien responsable, nous devons aussi trouver des moyens pour la mission, des moyens financiers, des moyens spirituels, c'est-à-dire créer des groupes de prière pour cela. Parfois on a du mal à démarrer quelque chose et puis si on se met à prier Dieu, eh bien il nous répondra d'une certaine manière. Mais si on commence pas par la prière et qu'on se lance à tout vent comme ça, ça n'aboutit souvent pas à grand chose. Et puis vous avez ce texte de Proverbes 16, 1 à 3, comme Josué 1, 7 à 9. Il est mentionné que tous nos projets doivent être remis entre les mains de Dieu, parce que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui va bénir nos actions, notre entreprise, nos projets. Et donc c'est important de remettre entre les mains de Dieu notre plan de mission. Nous ne cherchons pas donc la perfection dans ce que nous faisons, mais la progression dans notre travail. Alors quand j'ai été embauché à France Mission avec l'église de David Brown dans le 17e, Donc, on m'avait chargé, embauché en fait pour évangéliser dans un magasin de commerce équitable, mais j'étais pas embauché pour faire les travaux, pour faire l'électricité, etc. Et puis je me suis retrouvé, je devais avoir quelqu'un avec moi, et puis il a commencé un jour de travaux avec moi, et puis il m'a abandonné, m'a laissé tout seul, puis je devais donc finir les travaux, la peinture, l'électricité, tout refaire à neuf moi-même. Alors j'ai aucune compétence dans ces domaines-là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut prier Dieu. Et là, eh bien Dieu est plein de grâce et il m'a envoyé une ou deux personnes qualifiées pour la peinture, pour l'électricité. Bon, ils ont pas tout fait, mais ils m'ont montré comment monter une ampoule, par exemple. Et puis à partir de là, ben, je faisais tout le reste. Et après, il revenait juste pour contrôler si c'était bien monté ou pas. Donc, c'est important de prier Dieu, comme nous avons chanté tout à l'heure. La prière est quelque chose d'essentiel dans la vie de croyant. Alors, j'ai pas fini, excusez-moi. J'avais encore quelques éléments à dire, voilà. Et donc, le chrétien ne cherche pas la perfection. Dans la mission, hein, même dans la mission, on ne cherche pas la perfection, mais à progresser dans l'excellence, dans ce qui est le meilleur. Et on reste vigilant dans nos projets parce que l'ennemi nous attaque aussi et il aime pas quand on commence des projets pour le Seigneur. Il faut rester vigilant, il faut donner l'exemple pour les enfants que nous avons dans l'Église en recherchant la sainteté. Parce que c'est Dieu est un Dieu saint et il ne peut bénir ses enfants que s'ils sont saints et purs à ses yeux. Alors comment on peut être saint et pur à ses yeux? Eh bien, le roi David nous dit que lorsqu'il a péché dans le psaume 51, il dit que c'est tout d'abord contre Dieu qu'il a fait cela. C'est important de relever ça. Et dans le psaume 32, il dit que ses péchés lui pèsent tellement que ça lui empêche de le servir, de faire le travail que le Seigneur que Dieu lui donne en tant que roi. Et jusqu'au moment où il a affirmé, il a avoué, il a confessé ses péchés, eh bien à ce moment-là, Dieu l'a libéré. Et c'est la même chose que nous retrouvons dans un texte que vous connaissez très bien, dans 1 Jean 1, versets 8 à 9, lorsqu'il est dit que l'apôtre Jean dit que Dieu est fidèle et bon, et que si vous confessez vos péchés, eh bien il est fidèle et bon et il vous pardonnera, et vous serez alors pur, saint à ses yeux, et vous pourrez alors le servir. Ne travaillez pas seul. Le croyant ne travaille pas seul, mais en collaboration, en partenariat. Tout d'abord avec ses frères et sœurs que le Seigneur nous donne dans son Église. C'est très important de créer un réseau, par exemple pour la mission. On veut faire de l'évangélisation, eh bien il faut créer un réseau avec les églises locales. Et ça nous donne plus de force. Et puis, au-delà de l'aide humaine, eh bien, Jésus nous dit dans Jean 15, 5 que si nous ne restons pas attachés à Jésus, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Il est puissant ce verset, hein. Si vous ne restez pas attachés à moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne restez pas attachés à moi, vous ne pourrez pas vous lancer dans la mission. Ça ne marchera pas. La mission que vous êtes en train de préparer ne sera pas bénie. Alors, dans la Bible, reste attaché à Jésus, cela veut dire attaché à ses commandements, obéir à sa parole, mettre sa parole en pratique. Alors, le croyant qui est responsable, c'est aussi un croyant qui reste fidèle à son poste. Il n'abandonne pas son poste. Il n'abandonne pas l'Église lorsqu'il y a des travaux, lorsqu'il y a des projets importants. J'ai déjà vu dans plein d'églises où les gens abandonnent pendant qu'on fait des réunions importantes sur des projets importants, et c'est dommage. Donc ceux-là, ils ne vivent pas par l'esprit, mais ils vivent, ils viennent retrouver un groupe de personnes tout simplement. Alors la vie par l'esprit, l'apôtre Paul nous dit encore dans Romains 8, 9 que ceux qui n'ont pas l'esprit, eh bien, n'ont pas Christ. Et ceux qui vivent par l'esprit doivent vivre aussi les fruits de l'esprit ou le fruit de l'esprit. Un texte que vous connaissez bien, Galates 5, 22, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, etc. Le chrétien qui se dit vivre par l'esprit ne peut pas rester là à ne rien faire. Forcément, il y a quelque chose à faire. Forcément, il y a un fruit à produire, à faire mûrir dans sa vie. Et il me semble que c'est important de le rappeler. Et le chrétien cherche à plaire à Dieu. 1 Thessaloniciens 2:4. Il cherche à le glorifier. Un texte aussi très important, 1 Corinthiens 10:31. Que vous mangiez ou que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Passe à vidéo prochaine. Prochaine diapo, voilà. Donc, après ces quelques préliminaires sur ce que un chrétien responsable doit être en tant que chrétien pour se lancer un peu dans la mission. Maintenant, il nous faut donner quelques éléments sur la mission de Dieu. Alors, on peut se demander pourquoi Dieu se lance dans une grande mission sur la terre. Alors, si vous lisez dans Genèse 1, 31, au sixième jour, eh bien, Dieu a créé donc toute la création. Et puis, il dit que tout est très bon, tout est parfait, que tout est très bon ce qu'il a fait. Et puis, en Genèse 3, vous découvrez, vous êtes des chrétiens mûrs, et en Genèse 3, vous découvrez que vous avez appris que le péché est entré par Adam et Ève, et donc ils ont tout foiré, je me permets de dire ce mot, ils ont tout gâché, ils ont tout détruit, bien que Dieu, par sa grâce, a quand même préservé quelque chose de bon en nous et dans la création, la majeure partie des choses et se sont détériorées. Mais Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, et il ne laisse pas ce champ de chaotique dans le chaos. En Genèse 3:15, il donne une parole prophétique juste après qu'Adam et Ève ont péché, que vous connaissez très bien. Il dit ceci, alors je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et lui tu lui écraseras le talon. Cette prophétie bien sûr concerne notre Seigneur Jésus lorsqu'il est venu et mourir sous la croix, et bien l'ennemi a écrasé son talon, mais le Seigneur a écrasé la tête du serpent. En mourant sur la croix, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu le diable par sa puissance, par sa faiblesse plutôt, nous dit la Bible. Mais il s'est élevé par la suite à la droite de Dieu parce qu'il s'est humilié pour glorifier Dieu. Alors Dieu, dans la grande mission de Dieu, eh bien Dieu, dans ce monde de chaos, il se propose de rétablir l'univers qui gît sous le pouvoir du mal, depuis Genèse 3. Alors Romains 8, 18 à 21 nous apprend que toute la création est sous le gémissement et attend la rédemption de Dieu. Et ce que Dieu va faire, c'est que on voit la galaxie là, et puis nous trouvons en tout petit point là. Nous sommes ici là, en bas, au milieu là, vous voyez. On voit la Voie lactée, la galaxie là, et notre petit système solaire est là avec notre planète. Et Dieu se propose, face à cette immense cosmos, eh bien, de commencer à entrer en mission dans ce petit point où nous nous trouvons. Et ils cherchent des collaborateurs, des partenaires pour des ouvriers, nous dit le texte d'1 Corinthiens 3:12, ou des collaborateurs à travailler avec lui pour apporter le message du salut, de rédemption pour le monde. Voilà la prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, ce passage du Genèse 3:15 s'appelle, il y a plusieurs l'appellent, le protévangile. C'est un nom donné au texte de Genèse 3:15, considéré par la tradition chrétienne donc comme l'annonce faite par Dieu d'un rédempteur après la chute originelle d'Adam et Ève, selon la définition de Larousse. Voilà, donc... le Seigneur ne nous laisse pas seuls, mais lance déjà une prophétie pour nous sauver, et cette prophétie se réalise par Jésus-Christ à la croix. Voilà, prochaine diapo, s'il te plaît. Donc voilà, il s'agit de Genèse 3:15. Alors, parfois, on peut se sentir tout petit. L'église de Saint-Maur est tout petit par rapport à ce monde qui est si immense, si grand. L'église de Saint-Maur est en vert, hein. Et vous avez le groupe des jeunes francophones, un petit ovale, petit cercle ovale encore dans le... Et puis autour, vous avez l'église de la France, qui est représentée par le rond bleu. Et puis vous avez encore les autres églises qui sont représentées par quelques points que j'ai mis comme ça. L'Irak, Haïti, l'USA, la Chine, Israël et Palestine qui est en conflit en ce moment. Et on peut se dire, mais la mission est tellement immense, la mission de Dieu, mais c'est trop grand. Qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? J'y arriverai pas. J'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens intellectuels et financiers, c'est trop énorme, comment on va faire? Là encore, Paul veut nous encourager en disant, justement, c'est parce que lorsqu'on est faible, que alors nous serons forts. Parce que, comme nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, si nous restons attachés à Jésus, eh bien Dieu nous donnera la capacité de faire de grandes choses, même si nous sommes tout petits, même si nous sommes un tout petit groupe. Et je suis persuadé que le Seigneur est en train de faire de grandes choses pour l'église de Saint-Maur. On continue avec la prochaine diapo. Alors, ce que le Seigneur attend de nous, bien sûr, c'est que nous soyons des chrétiens attentifs, actifs dans sa mission. Comme nous avons lu dans Matthieu, que nous répondions à l'appel à la mission lancée par Jésus. Nous sommes des apôtres modernes, des apôtres qui vont implanter des églises, qui n'ont pas peur d'aller dans le monde entier. Et aujourd'hui, le monde entier est à nos portes. Nous qui sommes à Paris, nous voyons que les gens de toute nationalité viennent à nous. Tout comme dans Acte 2, lorsque le Seigneur accomplit sa prophétie sur le don de l'Esprit, eh bien à ce moment-là, il y avait les chrétiens de toutes les contrées de l'Empire romain qui étaient venus à Jérusalem pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, les apôtres parler dans leur langue, dans la langue de ces chrétiens qui étaient venus dans différentes contrées. Et donc, ils comprenaient ce que disaient les apôtres. Et les apôtres disaient des choses incroyables dans leur langue. Et ils étaient étonnés. Alors, bien sûr, aujourd'hui, nous allons partir en mission, faire des missions, des petites missions, et le Seigneur va nous envoyer des gens pour leur apporter la bonne nouvelle. Et nous allons devoir le faire d'abord localement, ici à Saint-Maur, et c'est ce que vous faites déjà. Mais il faut comprendre que Dieu ne nous appelle pas à faire des grandes choses, mais d'abord à commencer par des petites choses que Dieu va bénir. Commencez à Jérusalem, à Saint-Maur, et puis en Juda, puis en Samarie, et puis après en ailleurs dans le monde. Si le Seigneur appelle une ou deux d'entre vous, eh bien vous irez à l'étranger, etc. Mais pour l'instant, le principe de base est de commencer là où vous êtes. Et surtout, quelque chose que je trouve que parfois on oublie, c'est d'accepter que Dieu, que cette mission ne peut s'accomplir que par la puissance de Dieu. Acte 1:8, quand vous lisez au début, eh bien, avant que Jésus monte au ciel, il dit aux apôtres, ne vous inquiétez pas, je vais partir, mais une puissance, je vous enverrai une puissance. Et avec cette puissance, eh bien, vous pourrez aller prêcher la bonne nouvelle jusqu'au monde entier. Et cela m'encourage, lorsque, depuis des années, de voir que des gens prêchent, des gens font des choses et que on n'arrive pas à décoller, comme à l'église de Paris-Villiers où j'étais avec Transmission, on n'arrive pas à décoller pendant 3-4 ans. Il n'y a pas de nouvelles converties, de nouveaux convertis, et on est un peu découragé, mais voilà. Nous n'oublions pas que Dieu accomplira les choses par sa puissance. Et surtout, si nous vivons l'amour les uns pour les autres, si nous adorons vraiment Dieu, et bien dans le livre des Actes, il nous est dit que Dieu nous ajoutera des sauvés. C'est Dieu qui va faire croître, comme nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. C'est Dieu qui va faire croître son Église, c'est Dieu qui va faire croître la mission. C'est Dieu qui va faire croître son œuvre à travers nous. Il faudra lui faire confiance. C'est lui qui ajoutera des sauvés. Et ça, lorsque nous aurons vécu, lorsque nous aurons appris à vivre l'amour vraiment, les uns pour les autres, les uns avec les autres, et à adorer Dieu vraiment. Parce que si vous lisez vraiment dans ce passage de Acte 2, eh bien, on voit que l'Église primitive était tellement à fond dans l'œuvre de Dieu qu'ils se partageaient vraiment les choses, qu'ils vivaient vraiment l'amour les uns pour les autres, que Dieu, eh bien, il les a bénis en leur ajoutant des milliers de convertis à l'Église primitive. Et donc, et cela est important pour l'Église d'aujourd'hui, de vivre l'amour dans l'Église. On ne peut pas imaginer que les gens qui souffrent dans le monde puissent venir dans l'église et puis vont encore rencontrer des conflits, des choses comme ça. C'est pas possible. L'église est là pour justement encourager, pour proclamer l'évangile de l'amour de Jésus-Christ. Alors Dieu nous enverra des sauvés dans l'église. Voilà une façon de concevoir la mission. Et bien sûr, Dieu aimerait aussi que nous acceptions de recevoir ses bénédictions, sa joie, sa paix, les guérisons qu'il peut nous apporter, la sanctification, c'est-à-dire ce processus de maturité qui s'opère à travers l'Esprit de Dieu en nous. Eh bien, tout cela, Dieu va nous les apporter si nous restons attachés à lui. Et sa grâce va aussi s'appliquer sur nous, et à travers nous, et bien d'autres vont aussi goûter à la grâce de Dieu. Alors nous passons à la diapo suivante. Alors voilà, n'attendez plus d'œuvrer pour la mission de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés, il nous a confié une mission. Jésus nous a ordonné, nous a donné l'ordre d'aller en mission. Et il nous faudra donc œuvrer en ce sens en priant. La prière est encore une force. On connaît l'histoire du combat entre alors le combat dans l'Ancien Testament, il se trouve dans Exode, il me semble, 17, lorsque les Israël étaient arrivés dans un endroit donné, et puis Moïse envoie donc Josué pour combattre les Amalécites. Et à ce moment-là, il fallait que Moïse ne les a pas envoyés au combat sans rien. Mais il est monté avec les anciens sur la montagne. Et chaque fois qu'il levait la main pour prier pour la bataille, eh bien, Josué gagnait la bataille. Et chaque fois que Moïse était fatigué et que ses mains tombaient, eh bien, Josué, la Bible nous dit que Josué perdait la bataille. Et c'est très important, la prière. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais il veut nous faire participer à la victoire de la mission, ici-bas. Et donc, il demande à ses disciples de prier Dieu pour que le Seigneur nous envoie des ouvriers pour moissonner sa moisson qui est abondante. N'attendez plus. Lorsqu'il s'agit de prier, il ne s'agit pas de prier dans le vide, mais il s'agit de prier avec des actions concrètes. Et c'est ce que nous dit tout à l'heure l'apôtre Paul dans Romains 10, 13 à 15. Comment les gens pourront entendre l'évangile, la bonne nouvelle, si personne ne va annoncer? Voyez donc, la prière s'accompagne d'une dynamique, des actions très concrètes. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Rappelez de cette citation que je vous ai dit tout à l'heure, le monde s'écroule autour de nous et les chrétiens prennent le thé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? N'attendez plus, mes chers amis, mes frères et sœurs. Il y a du travail qui nous attend. Il y a des choses à faire. Priez Dieu si vous ne savez pas quoi faire. Allez voir votre pasteur, allez voir vos diacres, allez voir vos anciens. Ils vont vous dire ce qu'il faut faire. Lisez la parole de Dieu. Priez et le Seigneur va vous donner du service pour que sa mission puisse avancer ici à Saint-Maur et aux alentours, dans votre vie, dans votre entourage, au travail, comme tout à l'heure, un frère a prié. Oui, le Seigneur a une grande mission pour chacun de nous, mais il faut se mettre à sa disponibilité, il faut se mettre à son écoute. En lisant sa parole, aujourd'hui dans l'église, on ne lit plus la parole de Dieu. Il suffit de voir dans les temps d'étude de la parole de Dieu, il n'y a plus personne. Au début, dans l'église où je suis, on était parti avec 6 ou 7 personnes. Et là, on n'est plus que 2. C'est incroyable le désintéressement qu'il peut y avoir dans l'église. Pour l'étude de la parole de Dieu. Et si on n'étudie pas la parole de Dieu, on ne connaît plus la volonté de Dieu. On ne connaît plus le plan de Dieu pour chacun de nous. Il nous faut nous remettre à la parole de Dieu pour saisir la mission de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a une autre diapo? Conclusion. Il nous faudra garder confiance dans la mission. Une confiance ferme, nous dit dans 2 Chroniques 20:20. En Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est capable. Il y a un chant gospel assez récent qui est sorti « Dieu est capable » sur YouTube. Superbe, superbe chant. Encore une fois, nous rappeler que dans la mission, c'est Jésus qui bâtit son Église. Et en mettant cette conviction en nous, eh bien, je pense que nous aurons la force pour partir en mission, pour construire des projets de mission. C'est Dieu qui le fait croître, comme nous avons lu tout à l'heure, nous avons essayé de comprendre dans le livre des Actes, dans 1 Corinthiens 3, et un texte sur la souveraineté de Dieu, quelle que soit la situation. Vous savez, les missionnaires, souvent, ils partent, dans les histoires de mission, on dit souvent qu'ils partent en se disant, ils savent pas s'ils vont revenir. Ils partent en... Et il y a une histoire vraiment touchante dans le pays d'où je viens. Il y a un couple de missionnaires qui est parti et puis avec leur enfant. Et à un moment donné, il y avait de la maladie et l'enfant était morte. L'enfant était mort. Et donc, ils ont voulu l'enterrer dans le cimetière communal. Et... les Laotiens n'ont pas voulu qu'ils enterrent leur enfant dans le cimetière communal. Et ils étaient malheureux, ils étaient obligés d'aller l'enterrer dans la forêt. Voyez à quel prix, lorsqu'on part en mission, c'est pas évident. Mais voilà, tout est sous le contrôle de Dieu malgré tout. Actes 17-28, un texte certainement que vous connaissez. Dieu, c'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Dieu contrôle tout, dans nos difficultés, dans nos malheurs, dans nos péchés. Il nous faut juste nous remettre à Dieu. Et Dieu, qui est fidèle et bon, eh bien, nous aidera à progresser dans la mission, dans l'œuvre de Dieu, dans sa grande mission qu'il a commencée en Genèse 3:15. Alors, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Bénisse cette église de Saint-Maur et que son nom soit glorifié et que Jésus soit connu de tous les gens de Saint-Maur. Je vais prier. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous te bénissons parce que ta parole est puissante et nous rappelle, Seigneur, que dans cette grande mission, c'est toi qui l'as commencé, qui l'as débuté. Merci parce que tu as appelé chacun de nous pour être tes ouvriers, pour être tes collaborateurs. Tu n'as pas besoin de nous, Seigneur, mais tu veux nous faire participer à ton œuvre de salut. Merci parce que nous sommes petits, nous sommes peut-être sans force, sans connaissance, sans rien, mais ce que tu nous demandes, c'est de te faire confiance et de nous attacher à toi, à ta parole. Et tu vas nous confier des choses, des petites choses qui vont devenir des grandes choses, auxquelles, et des petites choses qui vont te glorifier, Seigneur. Et nous voulons nous mettre vraiment à ton écoute, à ton service, dès maintenant, dès ce soir, dès tout à l'heure. Et je veux que tu bénisses vraiment, Seigneur, cette église, ces jeunes qui se consacrent à toi, renouvelle-les dans leur force, dans leur conviction, dans leur foi, Seigneur. Car tu es vraiment le Dieu tout-puissant, et par ta toute-puissance, eh bien, nous pouvons accomplir de grandes choses. Par notre Sauveur Jésus. Amen.